Antonine Iacarini est notre amie politique. Bonjour!
Allô!
Comment tu vas?
Ben, ça va bien. Dernière semaine de campagne.
Ben oui.
Donc, dernier droit pour les partis. Êtes-vous tanné d'entendre parler de politique fédérale? Moi,
pas
non.
Avec toi.
Non, moi non plus.
T'es très drôle.
C'est un compliment que je t'ai fait pendant que ça riait. Pas avec toi.
Merci.
Parce que c'est simple, c'est go to the point. J'aime beaucoup ça. Est-ce que tu fais pas...
Oh. Ah, excuse-moi, je voulais juste spécifier une petite affaire. Moi, je suis vraiment pas tannée et j'ai réalisé quelque chose hier. Ma grande a, pour la première fois de sa vie, voté.
Ah!
C'est fait. Fait
que c'est quand même... c'était un grand moment là, pour nous. Là, puis j'ai comme eu de la misère à croire que c'était sa première fois parce qu'on suit beaucoup la politique ensemble. Fait que dans ma tête, c'est comme, c'est vraiment la première fois que tu vas voter. Mais elle-même, elle a vécu sa première expérience de votation.
Mon fils aussi.
Oh,
c'est tous les deux leur première expérience de vote. Puis le mien a même décidé de s'impliquer dans une campagne. Je ne dirais pas laquelle là, pour... garder un peu le mystère, mais lui-même, sans, j'ai aucun rapport là-dedans, il m'a annoncé qu'il avait commencé à s'impliquer dans une campagne, dans une circonscription, puis il a posé des pancartes, puis il est allé voter.
Wow!
C'est cool, hein?
C'est très cool.
Est-ce que toi, tu fais partie, Antonine, des 25 % de plus de gens qui ont voté par anticipation?
De plus, non, parce que je vote souvent par anticipation, parce que vu que je travaille le jour de l'élection et souvent à Montréal... et que j'habite dans Québec, ben il faut que je vote à l'avance. Fait que je suis allée vendredi matin avec la cohue.
Oui.
On se pensait tous vraiment intelligents. Je vais y aller voter en premier, mais finalement, tout le monde avait eu la même idée.
Ça veut dire quoi? Parce que là, j'ai traité le 25 % de plus par anticipation. Ça veut dire qu'il y a déjà 25 % de gens qui ont voté plus tôt que d'habitude.
Oui, puis vous ne pouvez pas changer d'idée. Là. Le vote est dans la boîte. Ça veut dire que c'est des gens qui sont sûrs qu'ils ne vont pas changer d'idée. Le vote par anticipation a eu lieu après les débats. Hein. Il y avait les débats mercredi soir et jeudi soir, puis le vote par anticipation débutait immédiatement après. Moi, j'interprète cette hausse du vote par anticipation par le fait que, ben, premièrement, c'est plus connu qu'avant. Là,
oui.
On voit
moins restrictif.
C'est moins restrictif. C'est plus facile que ça a déjà été. La deuxième raison de l'augmentation, je pense que c'est vraiment le contexte politique actuel. Je sens un énorme engouement. Là. T'sais, on parle beaucoup plus de politique. Des gens qui ne s'intéressent pas souvent à la politique, qui suivent davantage la campagne fédérale parce que les enjeux sont plus gros que d'habitude. Il se passe des affaires importantes. On est en crise avec les États-Unis. Les gens sont anxieux par rapport à l'économie, par rapport à notre relation avec notre voisin du Sud. Donc, on sent que c'est vraiment un moteur d'intérêt politique. Les gens veulent savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que les politiciens ont à leur proposer pour faire face à la tempête.
Bien, c'est justement ça, je dirais, la deuxième question. Pendant un souper de famille samedi, il y en a un qui lance son cadre financier. Mardi matin, je pense que...
Après le vote par anticipation.
Après le vote, ouais, il y en a un autre. Qu'est-ce que tu penses des deux cadres financiers?
Bon, d'abord, les cadres financiers, je sais bien que personne ne s'assoit là, pendant leur souper de Pâques puis ouvre le cadre financier puis se met à analyser là, si le ratio dette versus PIB est le bon. Là, on comprend ça. Mais il y a quand même un exercice rigoureux à faire pour que les gens... Moi, je pense que les gens, ils sont assez intelligents premièrement pour comprendre que quand on leur fait des belles promesses, bien, c'est nous autres qui va les payer. Ça serait le fun de savoir comment on prévoit payer ça. On avait des déficits de 62 milliards il y a quelques mois, là, lors de la dernière mise à jour économique. Les gens sont au courant de ça aussi. On a beaucoup de défis qui s'en viennent. L'économie ne va pas très bien. On a un spectre de récession, donc un ralentissement économique. Mais en plus, avec le risque que l'inflation reparte à la hausse, parce que d'habitude, quand il y a un ralentissement économique, les prix ont tendance pas nécessairement à avoir de l'inflation en même temps. Là, on a une tempête parfaite qui se présente devant nous. Les cadres financiers sont particulièrement importants à l'heure actuelle. On nous présente, autant du côté des libéraux que des conservateurs, les deux partis qui ont une chance d'atteindre le pouvoir à cette élection-ci, des cadres financiers après les débats. Donc, ça veut dire que pendant les débats, on ne peut pas discuter de ces questions-là, comment on va payer pour ça, comment vous allez faire pour retourner à l'équilibre budgétaire. Donc, on passe à côté. On nous présente du côté des libéraux, samedi de Pâques, un cadre financier.
Tout le monde était rivé devant leur écran.
Écoute, moi-même, là, c'est mon seul moment de toute la campagne où j'avais décidé de décrocher. J'étais dans le fin fond du bois. J'ai les ai lus, là, les articles et tout ça, là, mais je ne vais pas aller au brefage technique là, qui était offert au moins par les libéraux. Mardi matin, on nous présente le cadre financier des conservateurs, pas de brefage technique. Puis là, vous allez vous dire, c'est quoi ça, un brefage technique? Un brefage technique, là, c'est qu'on nous explique ligne par ligne, un peu comme le budget du Québec, il y a un huis clos. Là, les journalistes vont tous aller se faire expliquer. Puis tu as des gens qui sont capables de répondre aux questions techniques. Donc, c'est pas un point de presse comme les autres d'habitude où tu as le chef qui lance des slogans puis des lignes de communication assassines. On a des questions qui sont un peu plus techniques. Moi, quand la dernière campagne électorale à laquelle j'ai participé, c'était en 2018, j'étais au PQ. Et on avait présenté un cadre financier, on avait deux économistes de notre équipe, là, deux candidats qui sont économistes, et on avait fait vérifier par un auditeur externe, par un économiste neutre qui n'appuie pas le parti nécessairement, mais qui faisait des commentaires sur notre cadre financier, est-ce que ça se tient, et qui répondait aux questions des journalistes. Moi, là, je pense que ça devrait être obligatoire. Mmh. Honnêtement, là, surtout dans le contexte actuel où on a des défis financiers et économiques énormes. Bref, je suis un peu fâchée, pour être honnête. Je trouve qu'on ne nous a pas dit les vraies choses non plus dans les cadres financiers. On fait apparaître de l'argent, on cache des... On dit, ce n'est pas des dépenses, ça, là, c'est des investissements. Ça, c'est du côté des libéraux. Mark Carney a changé la manière de présenter ses chiffres. C'est de la comptabilité créative. Et on a de la difficulté à comparer les cadres financiers.
Oui, parce que juste avant qu'arrive Donald Trump, l'économie était au cœur de beaucoup, beaucoup des questions quand il était question déjà de politique avant. Fédérale. Mm-hmm. Puis, c'est l'affaire qu'on a présentée à la toute fin. On a, tu sais...
C'est ça, normalement, ça devrait être présenté en début de campagne électorale, selon toi?
C'est pas encadré, hein? Donc c'est une prérogative des partis. Les partis peuvent le faire quand ils le souhaitent. C'est juste le coup politique, à un moment donné, de prendre le monde pour des valises puis de le présenter la dernière semaine. Mais honnêtement, je commence à me demander si, collectivement, on n'aurait pas avantage à demander un meilleur encadrement.
À l'imposer?
À l'imposer, oui. Avant le vote par anticipation, pour que les gens puissent faire un choix éclairé et aussi pour que les partis s'autodisciplinent à faire attention à pas promettre n'importe quoi. Parce que si vous regardez le coût des promesses qui ont été faites, là, c'est incroyable. Et Mark Carney, qui se dit un petit peu plus à droite là, que son prédécesseur, Justin Trudeau, honnêtement, les promesses sont très, très coûteuses. Il y en a que, par exemple, tous les investissements en militaire. Il y a comme un momentum en ce moment. Là. C'est rare que c'est populaire, les dépenses en militaire, mais on avait promis d'investir davantage pour atteindre l'objectif. Quand on fait partie de l'OTAN, il faut investir un certain montant. On a toujours été en dessous. C'était une critique des États-Unis depuis longtemps aussi par rapport au Canada. Donc, il y a ça qui prend plusieurs milliards là, dans leur budget. Mais cela dit, des baisses d'impôts... Là, tout le monde va m'écrire des messages, me dire « on en veut des baisses d'impôts ». Moi aussi, j'en veux des baisses d'impôts. Mais quand tu regardes les cadres financiers, tu te dis là, à un moment donné, baisser les impôts, baisser les taxes, augmenter les dépenses. Tu sais, je veux dire, vous en faites des budgets à la maison, là. Ça balance pas. On se donne pas beaucoup de marge de manœuvre. Puis on présente ça un samedi de Pâques ou un petit mardi matin, vite, vite, dans la dernière semaine de campagne pour essayer de faire passer la pilule.
Oui.
J'ai une dernière question.
Ben oui, on l'a, là. Profite-en, elle est là.
Par le fait qu'il y ait eu plus de gens qui ont voté par anticipation, est-ce que, selon toi, ça pourrait être un signe que plus de gens vont voter en général? Tu sais, là, peut-être pas une augmentation de 25 % par rapport à la dernière élection, mais est-ce que tu penses qu'au vote général la semaine prochaine, on pourrait avoir un pourcentage de vote qui est plus élevé que lors des précédentes élections?
Je m'entends pas avec moi-même parce que je pense qu'il va y avoir un plus haut taux de participation que la dernière campagne électorale, étant donné l'importance des enjeux. Je pense que le vote par anticipation peut être un signe, mais à force... Puis là, c'est là qu'on sort un peu notre boule de cristal, mais à force d'entendre que les gens sont beaucoup allés voter, puis à force d'entendre de certaines personnes dans les médias que c'est fait pour Mark Carney, il a déjà gagné, ça peut faire en sorte qu'il y ait des gens qui se disent « Bon, ben, ça vaut-tu vraiment la peine d'aller voter? » On a vu, là, on est dans le dernier droit de campagne, puis souvent, c'est des appels au vote, c'est des annonces très ciblées là, pour aller chercher des segments des électeurs. Yves-François Blanchet, la semaine passée, a dit c'est réglé, là. Ça va être Mark Carney qui va gagner, ça va être les libéraux. Pourquoi il fait ça? C'est pas parce qu'il baisse les bras, c'est parce qu'il a vu qu'il y avait une certaine anxiété, que les gens voyaient en Mark Carney une espèce de sauveur, et il se dit, regardez, c'est fait, les amis, vous pouvez voter pour le bloc, là. Ça sera pas les conservateurs. Donc, on est dans ce genre de stratégie-là.
Je comprends.
Mais si les électeurs, après ça, se disent, bon, mais c'est fait, puis ils sortent pas de chez eux, donc, bref, le vrai sondage, là, c'est lundi qu'on va le voir.
Toi, tu es avec nous depuis le début de la campagne, le mercredi. J'aimerais ça que tu sois là, puis le mercredi après les élections.
Ouais.
Tu sais, pour qu'on débrief, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça a viré de même. Tu sais, juste un espèce de coin du coach, là, qu'on parle de cette grande journée électorale de lundi.
Puis j'ai hâte de voir dans la région de Québec aussi qui va réussir à se faire élire. On sait que dans Québec Centre, c'est Jean-Yves Duclos, qui était notre ministre responsable de la région, qui a été tassé du Conseil des ministres. Hâte de voir s'il va réussir à garder son comté. Dans Beauport, la circonscription de Beauport aussi, c'est très, très serré. On a presque une triple égalité là, entre les libéraux, les conservateurs et le Bloc. Donc, on pourra analyser tous ensemble et voir qui on aura comme élu dans la région aussi.
Yes. Elle s'appelle Antonine Iaccarini. Elle, c'est notre amie politique à nous. On parle de politique. Mais...
à nous.
À nous, c'est à nous. Ça. Merci, Antonine. À mercredi prochain.
Bye.
OK. Bon matin, guys.